used to walk in the shade with my blues on parade. But I'm not afraid.
Je ne serais pas arrivée là si...
It's over.
Christiane Taubira.
Pass out over. Grab your head and grab your coat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street.
Christiane Taubira. Je ne serais pas arrivée là si...
S'il n'y avait eu ce rire tonitruant de ma maman. Ce rire qui révélait une joie invincible. Oui, invincible. Elle était pourtant passée par des moments difficiles, cette mère de 11 enfants, sans mari, et qui avait dû arrêter l'école à 14 ans pour s'occuper de sa fratrie à Cayenne quand sa propre mère était morte. Elle avait même fait une dépression nerveuse lorsque j'avais 8 ans. Avait été prise en charge par les médecins, avait accepté d'avaler des décoctions et autres produits de la médecine créole. Et puis, un jour, elle avait décidé de mettre sa dépression au placard, de l'enfermer à double tour et de revenir s'occuper de ses enfants. Et j'ai alors retrouvé son rire, intact.
Vous avez hérité de ce rire ?
De sa joie de vivre invincible. Elle me l'a transmise par imprégnation. Je n'ai peur de rien. Je peux pleurer du malheur des autres, mais je ne pleure jamais sur moi. Et si un malheur m'arrive, je me redresse et j'avance. Si je dois crever, je crève, c'est tout.
Se reconnaissait-elle en vous ?
Peut-être. Mais nous avions des rapports difficiles, avec plein d'étincelles. J'étais bouillonnante, exubérante, aimais grimper aux arbres, jouer avec mes frères, rebelle, toujours rebelle, et tellement impertinente. « Toi, m'a dit un jour une femme en créole lors de ma première campagne électorale, ta langue est née 7 jours avant toi. » C'est beau, non ? Cela m'a fait rire, mais ça montrait combien je n'ai jamais pu dompter une insolence et un sens de la répartie qui énervait tant mes profs et ma maman. Je savais pourtant que ça me vaudrait des claques. Mais impossible de me retenir, surtout si j'étais témoin d'une injustice à l'école. Du coup, je prenais une raclée tous les samedis après-midi.
À cause de votre conduite ?
Oui. J'avais 10 sur 10 et j'étais première en français, en anglais, en latin, en mathématiques... Je ne concevais pas d'être deuxième, et ma mère d'ailleurs exigeait que je sois partout la meilleure. Mais en conduite, j'avais 7, immanquablement. Bavarde ne se tient pas tranquille. Alors j'avais la raclée avec 3 lianes tressées de cerisier.
L'éducation ne passait quand même pas que par les coups.
Ma mère était très sévère, très. Quelle que soit la situation, une querelle ou une injustice à laquelle on était confronté, elle estimait qu'on avait tort. On avait toujours tort. Inutile de se plaindre à elle, elle retournait vers nous l'accusation. « Et qu'est-ce que tu faisais là ? Et pourquoi as-tu agi comme ça ?» C'était exaspérant sur le moment, mais je sais qu'elle le faisait à dessein pour nous inculquer un sens aigu de la responsabilité. On n'est pas une victime, on est acteur. Sujet pleinement responsable de sa vie. On ne perd pas son temps à larmoyer sur son sort. On réagit, on rebondit. Et plutôt que de piétiner en se disant qu'on avait raison, on franchit le pas suivant et on se sort d'affaire. Sans s'incliner ni baisser les yeux.
Que faisait-elle pour gagner la vie de cette famille nombreuse ?
Elle a commencé par passer la serpillière à l'hôpital après son certificat d'études. Et puis, un à un, elle a passé les concours pour devenir aide-soignante et infirmière. C'était le courage et la volonté incarnée. Et la générosité. Elle avait à peine le temps de revenir à la maison qu'elle courait aider des personnes âgées, et toujours joyeusement. J'ai grandi avec ça.
Votre père était-il présent dans votre vie ?
Ma mère m'obligeait à aller passer un dimanche sur 4 chez lui avec mes frères.
Et quelle empreinte avait-il sur votre éducation ?
Aucune. Et je me laissais aller à de belles insolences à son égard. « Tu vas me respecter », m'a-t-il ordonné un jour. J'avais peut-être 10 ans. J'ai répondu « Je ne respecte que les personnes respectables ».
Aviez-vous alors de grands rêves ?
Ah oui. Dès 6 ans, je rêvais de sauver le monde. J'étais très sensible aux injustices et à la pauvreté. J'ai grandi dans un milieu extrêmement modeste, mais il y avait de la nourriture, des vêtements du dimanche, des invités pour nos communions, du nougat de Montélimar à Noël. Mais il y avait autour de nous des familles bien plus pauvres, et cela déclenchait en moi une compassion immense. Je me souviens d'avoir économisé secrètement sou après sou pour offrir un cartable à 2 filles de mon quartier. J'ignorais bien sûr ce que je ferais plus tard, mais il y avait en moi une espèce de sommation intime. Il était inconcevable que perdurent ces inégalités. Les histoires de missionnaires m'inspiraient, puis les figures rebelles du siècle des Lumières, et au lycée, les acteurs de la lutte pour les droits civiques, Martin Luther King, Malcolm X, Angela Davis.
Vous grandissez avec ces vastes aspirations, et soudain, lorsque vous avez 16 ans, vous perdez votre maman.
C'est l'univers qui s'écroule dans un fracas de fin du monde. Perdre une telle maman. Vous savez, si l'on parvient à survivre à ce séisme qu'a constitué sa mort, on peut tout affronter. Elle avait une telle force, une telle présence, une telle volonté. Il y a des choses que je n'ai réalisées que plus tard. Mais enfin, c'est éblouissant ce qu'avait fait cette femme en si peu de temps et en continuant à rire. Elle avait même conçu ce projet fou, dans une société post-esclavagiste à domination pigmentaire, d'être un jour propriétaire. Elle s'était endettée, avait acheté un terrain, construit une maison. Elle, ancienne fille de salle à l'hôpital, socialement stigmatisée parce qu'elle élevait seule ses enfants sans avoir eu la chance d'être épousée.
Et comment avez-vous rebondi ?
Quand on a des petits frères et sœurs, on est tout de suite rappelé à nos responsabilités. Je passe le bac avec mention, seule dans ma classe à l'avoir à l'écrit. Et là, trois professeurs venus de métropole pour corriger les copies de Guyane demandent à me rencontrer. Ils me parlent d'HEC, de normal sup, me gavent de compliments. Moi, je sais que ma route s'arrête là. Je dois prendre ma part dans l'éducation de mes frères et sœurs. La question des études ne se pose plus. Mais de leur démarche purement gratuite, j'ai gardé toute ma vie ce regard de confiance.
C'est votre grand frère qui va vous remettre sur la voie des études.
Oui. Alors que je suis très fière du contrat à durée indéterminée qu'on me propose au vice-rectorat, mon frère, qui a déjà trois petits sous son aile, s'y oppose radicalement. Si la fille du vice-recteur avait eu son bac et les capacités que tu as, elle ferait forcément des études supérieures. Donc tu feras ses études supérieures. Je ne serais donc pas arrivée là si ce grand frère ne m'avait enjoint de venir étudier à Paris et permis de découvrir l'infini du monde dans des librairies et des bibliothèques qui seront des abysses de bonheur.
Cette année intense, avant un retour à Cayenne, armée de diplômes d'économie, d'ethnologie, de sociologie et d'une volonté d'entrer dans l'action.
J'ai grandi avec l'injonction intérieure qu'on se doit aux autres. Alors je vais militer dans un parti indépendantiste, un syndicat, des associations que je monte ou que je rejoins. Les différents métiers que j'exerce sont vécus comme autant d'engagement et de combat. Je suis toujours en guerre, je ne laisse rien passer qui soit contraire à mes valeurs. Et cela aussi me vient de ma maman. Ne pas trahir, la tête sur le bio, ne pas vendre sa conscience et ne rien faire jamais qui puisse susciter la honte. Plutôt crever.
Vous parlez d'une joie de vivre invincible et n'avez jamais voulu montrer la moindre faille malgré les nombreuses attaques sexistes, racistes que vous avez subies. Y a-t-il quand même eu des blessures ?
L'invincibilité n'est jamais donnée. Mais j'ai cru sincèrement que les attaques ne pourraient pas m'atteindre. Les parquets de toutes les régions de France m'écrivaient lorsque j'étais garde des Sceaux pour me demander si je voulais porter plainte pour des injures racistes caractérisées. Remonte dans ton arbre, macaque, bonobo. Je refusais de me constituer partie civile, mais je ne m'opposais pas au procès. Ne pas sanctionner serait consentir à ce que des milliers de petites filles se fassent traiter de guenons en cours de récréation. Mais je me sentais indemne. Et voilà que de retour chez moi à Cayenne, à Noël 2013, je commence à écrire la nuit sur cette expérience. Et je comprends que je suis toute cassée à l'intérieur.
Le fait de poser les mots sur le papier.
Des souvenirs remontent, de propos racistes entendus pendant mon enfance, mais qui n'avaient pas arrêté mon rire. Pourquoi était-ce resté niché dans ma mémoire ? Et si moi, qui sais tant de choses, qui suis si sûre que j'appartiens à l'espèce humaine, qui ai livré tant de combats, résisté à tant de choses, je me découvre touchée, quelle violence pour ceux qui ne sont pas armés. Mais avouer ma blessure m'est insupportable. Je ne veux pas offrir une victoire aux racistes.
Avez-vous perdu des illusions à l'exercice du pouvoir ?
Disons qu'il m'a fallu un long et douloureux apprentissage pour comprendre la nécessité des compromis. Et apprendre que si l'on veut travailler avec les autres, il faut accepter de cadencer son pas. Quel mal pour m'en convaincre ! J'en ai souffert physiquement pendant des années. Je devais prendre deux aspirines la nuit quand j'avais été obligée de convenir d'un compromis au Parlement européen. Idem au sein du gouvernement, même si je sais qu'il s'agit d'une œuvre collective. Je me bats, je reviens à la charge, je suis de mauvaise foi, je redemande un arbitrage, j'ajoute un argument et je fais une insomnie.
Toujours un sentiment d'urgence ?
Je pense que le temps nous est compté. Un petit enfant qui n'a pas sa chance à l'école alors qu'il pourrait être notre prochain prix Nobel de littérature ou de physique, ce n'est pas acceptable. L'urgence est là, car il grandit.
Ce temps presque exclusivement consacré à l'engagement a forcément des conséquences sur la vie privée. Vous l'avez payé cher ?
Si j'étais la seule à payer. Mais c'est la famille qui paie très cher. J'ai choisi de rester accessible lorsque j'étais députée. Tout le monde connaissait l'adresse de mon domicile. Je me suis fait dévorer. Mes 4 enfants qui avaient entre 3 et 9 ans quand je suis devenue députée et que je faisais de multiples allers-retours entre Cayenne et Paris ont forcément eu des manques. Il y a une douzaine d'années, je leur ai demandé pardon.
Que dirait votre mère si elle pouvait voir ce que vous êtes devenue ? Y pensez-vous parfois ?
Bien sûr. Pendant une vingtaine d'années après sa mort, je ne trouvais pas la paix. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je pleurais, percluse de remords. J'aurais dû être plus gentille, plus prévenante, plus conciliante. J'aurais dû. Et puis, il m'est revenu des regards de sa part, des réactions dans telle ou telle situation. Et j'ai réalisé qu'elle avait en fait une extraordinaire confiance en moi. Et bien pas déméritée vis-à-vis de ma maman est une satisfaction colossale.
Je ne serais pas arrivée là si... Entretien avec Annick Cogent pour le journal Le Monde, sur une idée originale de Judith Henry. Lu par Judith Henry et Julie Gaillet. Musique originale, Vincent Segal. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc et Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Romane Chiban. Réalisation, Juliette Eman. Entretien publié aux éditions Grasset.